Insécure, épisode technique, je suis de David, comment vas-tu?
Super, merci beaucoup, ça va super, merci.
Super. On a terminé la dernière fois sur l'intelligence artificielle dans un SOC. On a effleuré un peu, fait qu'on voulait se garder un épisode complet parce que c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Fait que je vais te laisser commencer à expliquer un peu, puis moi j'aime beaucoup le fait qu'on va commencer par disons une certaine forme d'historique et d'évolution de ce que l'intelligence artificielle représente en cybersécurité, parce que pour bien des gens, ils pensent que c'est nouveau et c'est le dernier objet qu'on a, quand dans les faits, c'est beaucoup plus vieux, fait que je vais te laisser aborder ça.
Ouais, avec plaisir, et c'est vrai que derrière le phénomène de hype qu'on a aujourd'hui, il y a quand même un historique qui est là et qu'il ne faut pas oublier. Et c'est vrai que la mention d'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. Ça date, je crois, dans mon souvenir, dans les années 50, quand ça démarre, avec justement Alan Turing, on va dire, qui est un des pères fondateurs de ces sujets-là. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'application de l'intelligence artificielle, qu'à ce moment-là, on appelait beaucoup machine learning dans la technologie, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément nouveau. C'est qu'on commence, c'est des choses qu'on commence à voir arriver, je crois, dans les années 90 à peu près, avec justement des systèmes experts et différentes typologies après de machine learning qui font des choses de mieux en mieux et qui vont permettre à des briques technologiques de s'appuyer sur, appelons ça de l'IA, mais c'est machine learning, pour justement permettre de traiter des grands volumes de données, de les classifier. Donc ça, la classification, c'est la zone d'apprentissage, donc dans laquelle on va ranger des choses en mode c'est aidé par un humain, donc c'est supervisé, ou c'est complètement autonome, c'est non supervisé. Mais ça va permettre de faire des grosses patates, des gros clusters. Et une fois que cet apprentissage il est fait, on va s'appuyer sur ça pour appliquer ces modèles-là en temps réel et faire en sorte que dans les solutions, à ce moment-là, on va être capable de faire des flux temps réel qui vont permettre de dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc, par exemple, ça va nous permettre de définir que sur des batteries, des volumes des flux de mails qui arrivent, on aura préalablement classifié, on saura dire bah, ça, filtre bayésien, ça va être bien, ça va pas être bien. Un NDR qui va voir traiter des flux réseau, pareil, on aura appris qu'est-ce qu'une baseline correcte d'activité réseau associée à une machine ou qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Et donc, du coup, c'est acceptable, c'est pas acceptable. Et donc, du coup, tous ces environnements-là de machine learning, c'est pas nouveau, ça existait déjà. Et clairement, on a eu la technologie qui s'en est emparée jusqu'en 2023, pour faire simple, en progression successive. Et à ce moment-là, on faisait pas grand bruit, pas grande mention finalement qu'on utilisait de l'intelligence artificielle, parce que tout le monde le faisait à sa façon. On appliquait juste des stratégies de machine learning qui apportaient de la valeur ajoutée d'un point de vue fonctionnel dans un produit, mais c'était un peu une évolution naturelle et normale. Et puis, arrive la nouvelle approche de Transformer par Google qui donnera lieu à OpenAI en 2023 et ChatGPT, et là toute la donne change avec l'usage de LLM, et on découvre qu'il est possible de faire des choses hyper intéressantes dès lors qu'on a un corpus je dirais textuel en entrée bien structuré, et du coup on est capable de faire de solliciter un modèle pour vraiment avoir des réponses, et progressivement on va avoir tous les composants tech et pas que la sécurité qui vont s'emparer de ça pour en tirer aussi un maximum de nouvel apport de valeur dans les produits. Donc là, typiquement, on voit au départ, je pense qu'on est en 2024 à peu près, on a une vague dans laquelle on va avoir des assistants qui arrivent, des assistants dans les solutions. Et les assistants sont au départ des choses qui sollicitent ni plus ni moins que des modèles, des grands modèles de langage. Et permettant du coup au sein d'un produit de dire finalement en indirection ce que donne le modèle de langage. Donc je te pose une question consistant à dire c'est quoi tel groupe d'attaquants, si le grand modèle de langage sait m'en parler, tant mieux, j'ai une réponse dans mon produit. Finalement, ça lui fait gagner de la valeur ajoutée facilement. Et puis après, on améliore les choses, on apporte la technologie nous apporte le RAG, où on va combiner vraiment ce que le grand modèle de langage sait dire avec des datasets internes à l'environnement client. Et là, on comprend bien déjà d'un point de vue sécu, ça devient sympa. Parce qu'à la fois, on a la capacité à comprendre le monde qui vient du LLM, qui lui-même avance à mesure des itérations successives. Et puis le RAG, lui, il nous amène les corpus documentaires spécifiques à un client. Donc on va avoir, par exemple, la capacité à mettre à l'intérieur mes analyses de risque, mes politiques de sécurité, je dirais mes derniers reviews de pen test. Donc là, on voit bien que du coup, quand je vais poser une question, bah, j'ai à la fois la réalité des menaces au sens général, mais j'ai également mon contexte à moi qu'à l'intérieur. Donc là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Là, on est sur 2024-2025, et puis arrive, on va dire, des grosses évolutions portées par encore une fois, OpenAI anthropique avec la notion d'agentique qui arrive. Et là, on prend un peu une claque dans la tête parce qu'effectivement, ça va permettre de faire des choses assez folles. Et du coup, il y a un peu tout le champ des possibles, on va dire, qui s'ouvre en face de cette approche agentique. Puisqu'en fait l'agentic, si on lui décrit structurellement, il a des capacités. On en parlera, je pense, peut-être tout à l'heure. Il a différentes capacités et qui permettent vraiment de prendre de l'autonomie, de faire un certain nombre de choses. Et si tu les mets après en cluster, en boucle les uns avec les autres, alors là tu tires un maximum de valeur. Et ça, finalement, dans cette évolution là, bah, c'est quelque chose qui... Je dirais pas que c'est encore arrivé massivement, parce que tu vois, ça fait que depuis 2025 à peu près que c'est en route. Donc les entreprises, bah, une fois que la technologie est sortie, faut le temps de l'implémenter. Donc dans les roadmaps produits, dans le temps de développement, bah, faut itérer un certain nombre de fois. Mais c'est vrai que depuis fin 2025, début 2026, on commence à avoir, je dirais, des produits qui amènent effectivement des capacités agentiques. Bah, nous, c'est pareil, on est en plein dedans. On va sortir des modules agentiques, enfin, modules agentiques cette année. Et c'est vrai que ça apporte énormément de nouvelles valeurs sur le marché, et je pense que beaucoup d'acteurs, et encore une fois pas que cybersécurité, vont faire évoluer leurs produits dans ce sens-là, parce que si tu es capable de transformer une partie de ton produit en capacité agentique, bah c'est évident que tu fais gagner tes utilisateurs en termes de temps passé. Donc tout le monde y gagne.
Oui, et puis c'est intéressant parce que autant on était dans des modèles très spécialisés avant, qui était justement comme machine learning, où le LLM ou le Transform qui a été développé par Google transforme d'un modèle spécialisé dans des sphères très précises à un outil plus général, accessible, un peu comme tu le mentionnes très bien d'ailleurs, qui a des possibilités très, très vastes et qui, justement, nous amène jusqu'au agentique maintenant, qui est amusant en sens parce que c'est comme un grand modèle, mais mis dans un petit espace. C'est vraiment l'idée de l'agentique, de comment le rendre atomique. Puis j'aimerais ça justement, parce que vous êtes en train de le faire d'ailleurs, comment ça représente cette transformation-là vers l'agentique qui offre des capacités très intéressantes, notamment en cybersécurité. Comment vous abordez cette situation-là, puis comment ça marche vraiment?
En fait, si on se dit que quand on parle d'un framework agentique, ça veut dire vraiment un framework dans lequel tu vas, enfin un cadre dans lequel tu vas avoir un ensemble d'agents qui vont travailler ensemble. Donc si on se dit un ensemble d'agents qui vont travailler ensemble, on peut démarrer par un use case, et j'expliquerai après le comment ça marche. Ça peut être intéressant de voir ça comme ça. On va avoir un premier agent qui, par exemple, son rôle dans un métier de SOC, ça va être de faire de l'investigation. Donc pour faire de l'investigation, c'est simple, j'ai face à moi des événements ou j'ai face à moi une alerte, et le but, ça va être de comprendre, on va dire, quelle est la teneur de ce qu'il y a derrière. Si j'ai une alerte, potentiellement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été détecté. Donc le rôle de cet agent-là, ça va être de rentrer dans le détail, d'aller voir les événements associés, de prendre la connaissance, on va dire, des actifs qui sont touchés dans le contexte de ces événements ou de ces alertes, d'aller investiguer derrière les menaces qui sont mentionnées, de confirmer, on va dire, que certaines choses se sont passées ou ne se sont pas passées. Exemple, typiquement, tu as un firewall qui dit bah, il y a une communication vers tel environnement. Ok, très bien, la communication, elle a eu lieu. Mais si c'est une communication stateless, tu sais pas dire si par la suite, on va dire, il s'est passé quelque chose sur la machine. Or, typiquement, ça a peut-être été bloqué par un équipement plus loin. Donc, il va falloir confirmer sur, OK, derrière cette com-là, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres choses derrière qui ont permis de faire les next steps, on va dire, de la charge active. Et donc, du coup, ça, d'un point de vue investigation, d'un point de vue capacité à faire des requêtes d'investigation, tu vas être capable de sortir ces résultats-là. Donc, ça, c'est le boulot d'un agent d'investigation. Et typiquement, il va pouvoir faire ça. Et maintenant, cet agent d'investigation, tu dis, bah, en fait, il peut être utilisé non seulement par un analyste qui va dire, bah, aide-moi à investiguer derrière une alerte, mais typiquement, la logique qui est encore plus efficace, c'est de se dire, bah, une investigation c'est quoi? C'est quelque chose que tu vas toujours faire à minima dans une optique de triage dans un SOC. Donc finalement, quand tu as ta batterie d'alerte face à toi et qui correspond un peu à ton daily job, et tu dois tout le temps faire ça, et c'est même tout le temps assez fastidieux, tu te dis, si j'ai la capacité derrière toutes ces alertes-là, globalement, à activer du triage automatisé par de l'investigation, je vais aller beaucoup plus vite. Donc finalement, tu vas avoir un agent de triage qui joue un peu un rôle d'orchestrateur et qui va faire appel aux agents d'investigation à chaque fois en disant, regarde ce qui s'est passé dans celle-ci, puis dans celle-ci, etc. Et tu combines tout ça. Et à la fin, lui, son rôle, c'est pas tant d'investiguer, mais ça va être de donner plus ou moins un verdict ou une confirmation ou un score de pertinence selon les technologies dont tu parles. Et donc, tu vois, chacun son rôle, chacun son focus précis, mais du coup, chacun d'entre eux va s'appuyer sur un scope d'entrée, une capacité de raisonnement, des batteries d'action, on va dire, qui sont à sa disposition, et tout ça va être combiné les uns avec les autres. Et tu vois, le use case que je te donne, nous, c'est exactement celui par lequel on a commencé dans la stratégie d'Agentic. On a commencé par un module, par un agent d'investigation, et cet agent d'investigation a, dans la foulée, été mis en relation avec un agent dédié au triage, parce que du coup, les deux travaillent hyper bien ensemble. Et une fois que l'agent a, je dirais, s'est occupé de la tâche de triage, tu peux aller plus loin. Tu vas pouvoir aussi proposer d'autres actions qui vont aller, par exemple, vers la gestion du plan de contre-mesure. Donc là, ça va être un autre agent qui va s'occuper de ça. Donc, maintenant que j'ai à peu près de la certitude sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il convient de faire? Aide-moi à définir ce qu'il convient de faire. Donc là, pareil, t'enclenches ta batterie de raisonnement, tu t'appuies d'un point de vue contextuel sur c'est quoi les outils que tu as à disposition. Quels sont ceux qui sont accessibles d'un point de vue pilotage? Donc, est-ce que tu as une API en face ou pas pour les piloter? Est-ce que tu as un MCP pour les piloter? Si oui, tu vas les prioriser, tu vois, d'un point de vue séquencement. Parce que même si je peux me dire, je sais pas si je reste sur le scope du réseau, je pourrais bloquer une communication au niveau de mon routeur d'entrée de mon entreprise, mais j'ai peut-être pas la main sur ça. Par contre, au niveau d'un petit équipement de bordure, j'ai peut-être une API qui me permet de jouer avec. Donc, du coup, c'est là que je vais jouer parce que je peux faire ça. Donc, cet agent, il va avoir la capacité de comprendre là où il a des points d'action préférentiels et donc, du coup, de proposer des stratégies qui sont d'autant plus pertinentes. Donc, on voit bien que, chaque fois que tu crées un agent, il est spécialisé et en fait, il prend la place d'une certaine manière d'un certain skill set qu'aurait un analyste. Maintenant, un analyste, imaginons senior, il va savoir faire un certain nombre de choses. Tu vois, il va être capable d'aller dans l'investigation poussée, il va être capable de comprendre la vue d'ensemble, il a ses interactions avec les équipes business, il est capable de savoir comment est-ce que tu procèdes à des tâches parce qu'il connaît bien tes security operation procédures internes. Et en fait, tout ça, progressivement, c'est des micro-morceaux que tu vas pouvoir donner à un agent qui, lui, va s'en emparer pour essayer de faire aussi bien. Voilà un petit peu sur l'explication un peu du comment, oui. Comment ça marche. Et je suis parti sur le use case. Ce qui est intéressant, c'est qu'un agent, en fait, si on soulève le capot, un agent, ça va être quoi? C'est vraiment, il s'appuie sur de la dataset d'entrée. Donc là, typiquement, en l'occurrence, ça va être... pour ce qu'on a dit, nous, ça va être les alertes, ça va être le contexte des assets de l'entreprise. Il va s'appuyer sur une capacité de raisonnement. Donc là, c'est un LLM, soit interne à la plateforme, soit pareil, sollicitable en externe d'un point de vue API. Et il a des actions qu'il va pouvoir engager. Et les actions, quand on parle d'agent, c'est souvent associé au framework, enfin au protocole MCP, pour pouvoir justement faire des choses selon un protocole bien défini.
Oui, puis là, tu as déjà devancé un peu ma question, c'est intéressant. Puis je vais justement profiter pour aller un peu plus loin que ça. Ces agents-là, parce que là, ils ont des pyramides d'action très définies, donc il y a juste à travers ça. Donc, vous devez les paramétrer, les encadrer justement pour qu'ils demeurent dans leur séquencement. Et comment vous faites ça un peu pour vous assurer qu'il est balisé correctement à la bonne place? Et la question conséquente, c'est comment les hallucinations peuvent être retirées de cette façon-là en justement le balisant correctement?
Ouais, c'est une super bonne question. Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est comme toute sollicitation que tu peux faire toi en tant qu'utilisateur quand tu es dans une interface ChatGPT, tu lui parles en fait. Donc tu vas amener ton prompt consistant à dire qu'est-ce que tu cherches à faire? C'est quoi l'objectif de cet agent-là? Donc ça, c'est ton prompt tracing que tu vas donner comme étant un ensemble de paramètres, d'instructions, mais qui sont drivés par le produit en l'occurrence. Tu vois, c'est l'approche un peu générique consistant à dire voilà ce que tu dois faire, voilà tes objectifs, voilà par les étapes par lesquelles tu vas passer. Lorsque tu as fait ci, fais ça, respecte bien telle étape. Donc, tu as une batterie, on va dire, qui fait, j'en sais rien, moi, l'équivalent de 5 pages que tu donnes en prompt à un agent pour qu'il soit précis, efficace par rapport à ce nombre de choses. Dans cette séquence-là, tu essayes aussi de lui faire éviter les hallucinations, mais c'est peut-être pas suffisant. Mais là, et tu t'appuies toujours à ce niveau-là sur une approche un peu générique. Après, tu peux resurcharger ça, et ça c'est intéressant, avec des instructions clients. Sous-entendant, nous par exemple, on permet dans le produit à ce que chaque client va pouvoir resurcharger les agents avec des choses qui lui sont propres. Tu vois, quand on disait tout à l'heure, la notion de, par exemple, de gestion de triage, tu peux estimer que toi, tu vas proposer un triage, une classification générique, d'un point de vue d'une instruction, d'une directive interne de l'entreprise, la notion, par exemple, de faux positif ou vrai positif, c'est pas un terme qui a du sens dans l'entreprise. Eux, ils vont appeler ça, ils vont estimer ça comme étant une notion de scoring entre 0 et 100. Et donc, du coup, tu ne dois pas parler faux positif, vrai positif, tu dois donner une échelle entre 0 et 100. Bah, du coup, tu vas resurcharger avec tes instructions quelque chose pour parler dans le domaine, dans le langage du client et faire en sorte que ton agent le plus possible se cale sur l'environnement du client. Après, sur la partie hallucination, il y a aussi des choses assez intéressantes, mais ça, c'est sur l'architecture même de raisonnement sur lequel tu peux faire itérer ton agent pour que maintenant qu'il y ait plusieurs passes de vérification. Soit ça peut être un agent lui-même qui fait plusieurs passes d'itération, soit tu peux avoir au sein d'un agent finalement une structure elle-même multi-agent qui va faire appel à différents points de vue. Exemple tout bête, ça je trouve ça assez sympa. Tu veux un agent qui te donne une visibilité sur les menaces étatiques de tel ou tel pays. Tu vois, c'est assez, pourquoi pas, c'est assez sympa. Donc là, tu es sur un agent qui va être spécialisé plutôt threat intel. Et on sait bien que quand tu montes sur l'angle stratégique, bah, selon que je sollicite un LLM américain, européen ou chinois, j'ai une certaine vision du monde. Donc, c'est peut-être intéressant à ce niveau-là d'itérer plusieurs fois pour à chaque fois faire appel à la même query, mais maintenant qui va faire appel à un usage de LLM à différents LLM pour avoir de la confrontation de points de vue. Et finalement, au sein de ton agent, à la fin, dans la dernière étape, tu vas dire, écoute, basé sur les 3 ou 4 paramètres d'itération que tu auras fait sur les différents LLM géographiques, bah, donne-moi une vue de synthèse et présente-moi aussi les vues, par exemple, d'écart particulièrement mis en avant par l'un. Ça pourrait être intéressant. Par exemple, tu vois, sur l'aspect Tiananmen, j'en sais rien, tu vois, c'était un exemple qui avait été critiqué pour DeepSeek un certain temps. Ça a été corrigé depuis, mais si t'es toujours là aujourd'hui, bah, cette vue de synthèse à la fin permettrait de dire, ah ouais, c'est pas, il y a ça, et il y a surtout une vue très différenciée, donnée par tel LLM. Voilà. Ça peut être des choses assez caractéristiques.
Oui, puis c'est très intéressant cet exemple-là, surtout à 3, comme tu le mentionnes, parce que ça me rappelle un manga des années 90. Justement, il y avait 3 mainframes qui se confrontaient justement pour prendre une décision. Déjà que cette idée-là de mettre plusieurs machines vis-à-vis pour arriver à un meilleur résultat est vieille en termes de ça, mais là, on le voit en action pour de vrai, ce qui avait été imaginé dans la science-fiction avant, maintenant, se matérialise. Puis effectivement, c'est intéressant, tu le mentionnes, il y a des biais dans les modèles qu'on utilise, puis là, même les modèles américains, entre autres, ont des biais qui sont différents parce qu'ils n'ont pas nécessairement le même corpus d'apprentissage. Fait que ça va être intéressant justement de refaire ressortir ces éléments-là au niveau plus très intel, plus en haut. Mais est-ce qu'on le voit aussi plus bas aussi, cette espèce de débat-là, où on laisse ça vraiment des modèles, des espaces plus stratégiques?
T'aurais quoi? Tu penses à quoi exactement?
Ben, quand on arrive un peu plus bas dans le triage, par exemple, comme tu mentionnais, est-ce qu'il y a un intérêt à aller dans ce modèle-là de débat entre plusieurs modèles ou c'est pas intéressant et à ce stade-là, c'est vraiment juste ce premier triage, puis comme on fait dans la vraie vie aussi, là, que dans le fond, c'est des gens de moins qualifiés qui font le premier triage et ensuite on envoie ça aux gens plus qualifiés. Là.
En fait, je pense que tel que tu formules la question, tu donnes en partie la réponse. C'est qu'en fait, il va falloir être un peu pragmatique. Et en fait, chaque fois que tu fais appel aussi que tu multiplies finalement, que tu as une architecture plus complexe ou tu multiplies tes points de passage, tu perds en latence et par contre, tu rajoutes en coût. Typiquement, si je dois faire 3 points de passage, on va dire, pour aller faire des checks sur 3 LLM, ça va me coûter 3 fois plus cher, d'un point, à peu près, d'un point de vue consommation de crédit, tant si je fais appel à des API en externe que si j'ai les modèles en interne. Donc, à un moment, je vais devoir être raisonnable dans mes agents, justement, en disant qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire entre des choses qui vont être le plus efficaces possible ou des choses qui vont effectivement aller chercher le plus de confrontation de points de vue. Et je pense que la confrontation de points de vue multiples, c'est pas à mettre pour tous les contextes d'agents, parce que assez souvent, ça n'aura pas d'intérêt. Voilà. En général, aujourd'hui, je t'aurais pas dit la même chose il y a 2 ans, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de modèles qui sont quand même très bien faits, sur lesquels les réponses sont efficaces, les hallucinations, il y en a quand même de moins en moins. Et voilà, il y a 2 ans, il aurait fallu déjà, si cette logique-là existait, confronter des queries d'agents plusieurs LLM. Aujourd'hui, si les approches sont assez basiques et simplistes, en général, t'as pas besoin de multiplier les confrontations de points de vue. Par contre, tu peux quand même itérer au sein d'un agent pour revérifier dans sa propre boucle qu'il n'y a pas quand même un point de vue différent qui se présente à côté.
Ouais, ben c'est intéressant. Puis oui, malheureusement, j'ai injecté ma réflexion dans ma question. Tu l'as très bien vu. Ça, c'est bref. De ça, là, tu parles d'agents extérieurs, donc les grands modèles publics. Il y a des modèles privés. Est-ce que vous avez une balance entre l'usage d'un modèle privé plus petit essentiellement, ou il y a des modèles, les grands modèles là, qu'on peut avec les API sur l'externe?
Moi, je donnerais dans ma réponse, je vais la faire à 3. Je pense à 3 choses. Tu as l'usage classique, on va dire, que tu vas pouvoir faire où tu sollicites par API un modèle externe. Donc là, par exemple, je vais avoir des crédits API pour solliciter du OpenAI, par exemple, et mes queries LLM, on va dire, vont passer par ce canal-là. Pourquoi pas, c'est bien. À ce moment-là, tu vas devoir effectivement protéger à travers un DPA ou autre que les transmissions de données entre toi et eux sont bien carrées. Mais ça se fait. Deuxième approche, on va dire, celle que nous on plébiscite, c'est le fait d'embarquer le modèle en interne chez toi. Donc là, tu vas instancier le modèle en interne chez toi et tu mets les ressources d'un point de vue GPU qui vont bien pour réussir à le faire tourner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de modèles open source de LLM qui existent. Qui ont été open sourcés et qui permettent là encore d'avoir des très très bonnes performances. Alors du coup, tu n'as pas les toutes dernières versions, mais d'un point de vue ratio, là encore, tu vois, d'un point de vue ce qu'on disait tout à l'heure, entre le côté pragmatique, entre là, cette fois-ci, tu garantis plus de latence, plus de sécurité, c'est quand même des très très bons choix. Et après, la dernière approche pour moi, plutôt que de parler de LLM, on va parler de DSLM, Domain Specific Language Model, où là, tu auras fait ton modèle à toi, tu auras créé ton modèle, qui est certainement beaucoup moins riche d'un point de vue nombre de paramètres qu'un LLM, mais par contre, il est hyper adapté à ton environnement. Et ça, c'est des approches qui sont aussi assez intéressantes. Et c'est vrai qu'on a vu quelques entreprises, je pense à Cisco notamment, qui avait réalisé un moment son propre modèle, donc on peut appeler ça un DSLM, dédié à la cybersécurité. Et ça, je trouve que c'est des approches aussi assez chouettes, parce que plutôt que des fois de te perdre à devoir instancier justement LLM qui va coûter plus cher forcément et mettre plus de temps à répondre qu'un modèle spécialisé, bah il vaut des fois mieux avoir un modèle spécialisé. Finalement, tu te moques pour un contexte de cybersécurité de savoir répondre à des questions sur l'histoire. Normalement, ça t'intéresse pas. Donc voilà, mais c'est ça en fait.
Ouais, je suis d'accord, parce que puis ça c'est l'évolution, puis je trouve ça intéressant que tu le mentionnes de cette façon-là, parce que historiquement, les machine learning, c'est des modèles spécialisés. Les LLM sont arrivés avec des modèles généralistes et on est en train de rebasculer tranquillement vers des modèles spécialisés, parce qu'il y a des coûts importants à l'usage d'un modèle généraliste. Au-delà du fait qu'il est capable de converser correctement, quand on arrive dans des usages plus spécialisés, effectivement, on retourne. Mais avec tout l'avantage du transform, c'est ça aussi, il ne faut pas... ça, puis comme tu mentionnes le modèle de Cisco, c'est on utilise l'avancée technologique que Google a développée avec le Transform et on les applique au machine learning qu'on avait avant. Donc, on a un gain énorme à la capacité d'apprentissage spécialisée et on est en train de redécouvrir, comme on aime beaucoup faire en général, ces avantages-là, effectivement.
Carrément, ouais, ouais, ouais. Et après, tu vois, c'est. Il y a un truc qui m'embête un peu, c'est que derrière tout ça aussi, tu as un peu une forme d'usurpation de l'usage de l'IA qui est pris par un certain nombre d'acteurs. Nous, par exemple, nous, quand on parle du SOC, globalement, c'est le SOC dans son entier. Tu vois, ça veut dire qu'il y a tous les composants qui sont dedans. Donc, des événements qui arrivent, à la capacité à les ingérer, les stocker, détecter des choses dessus, lancer les plans de réaction, avoir les humains qui sont en face de ça et qui vont faire le job. Pour nous, c'est ça le SOC. Et en fait, aujourd'hui, tu vois tout un ensemble d'acteurs, on va dire, qui prennent que la zone brillante de la fin en disant, une fois qu'il y a peu de données, finalement, très peu de données, je vais mettre en place ma solution et je vais appeler ça AI SOC. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile, on va dire, de faire le job lorsque tu as eu un entonnoir de traitement et que par rapport aux millions d'entrées, il reste que 10 à la sortie. Si je bosse sur 10, sur des millions, c'est beaucoup plus facile. Mais pour moi, c'est un peu de la triche, c'est pas ça le sujet.
Oui, tout à fait. Puis ça nous amène sur la troisième patte qu'on voulait discuter, c'est l'impact sur les équipes et donc l'impact sur l'organisation humaine et procédurale du SOC, parce que ça a une influence. On change de paradigme, mais il demeure que c'est des humains qui opèrent ça demeure qu'il y a encore des processus et des procédures qui doivent s'articuler et comme pas juste arriver par magie. Puis ça, le SOC, le AI ne remplacera pas les analyses du SOC, ils vont juste augmenter leur capacité et non, comme tu le mentionnes, effectivement, c'est usurpé, c'est l'espèce d'objet brillant en pensant que tous les problèmes vont être réglés. Ils ne sont pas réglés, mais ils vont être améliorés, disons, de toute façon.
Ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Ça ne va pas être une notion de remplacement. La notion d'augmentation, par contre, elle est très nette. Hein. Je pense que tout le monde, tout acteur de la cybersécurité a parfaitement conscience aujourd'hui que s'il n'est pas un utilisateur de l'IA, il rate déjà une opportunité de s'améliorer lui-même ou d'être meilleur dans son job, ça c'est certain. Et ça va augmenter et ça va s'accélérer. Donc il faut vraiment être dans cette dynamique-là. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de fonctions qui avant étaient prises par des équipes ou par des rôles qui vont être mangées par l'IA. Tu vois, on l'a dit, la notion de triage, demain, je pense qu'elle aura quasiment plus de sens à être faite par des gens. Donc ça veut dire que si par exemple dans ta manière de voir le SOC, tu te disais que 50% de tes gars font du triage, 50% et je ne sais rien moi, 25% sont sur du detection engineering et 25% sur de l'investigation lourde ou la gestion de crise, bah tu viens de supprimer 50% de tes gars d'un coup. Je pense que ça, personne ne voit ça comme ça, si ce n'est peut-être certains CFO d'un point de vue optimisation financière, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Tu vas avoir un transitionnement, je pense, d'un certain nombre de métiers associés au rôle du SOC qui vont aller vers de la plus haute, je dirais, vers des fonctions à plus haute valeur ajoutée. Tu vois, on a mentionné les aspects de detection engineering. Ça, c'est des choses qui vont rester. Il va falloir, du coup, être capable de compléter et d'améliorer. Du coup, comment est-ce que je peux faire des meilleures détections? Et faire des meilleures détections, ok, le produit, nous, on le fait, on va essayer d'apporter des choses, mais après, il y a toujours la composante métier. La composante métier, c'est toujours l'utilisateur ou l'environnement SOC dans son environnement qui va devoir le porter. Donc, ça va leur laisser plus de temps, finalement, de faire mieux, le fait de pouvoir détecter et lancer ou définir, pareil, les plans de réaction qui sont associés à ça. Donc, ça va permettre, finalement, d'aller sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Et je crois que dans tous les cas, c'est très bien et qu'on n'a pas le choix. En fait, le security analyst qu'on avait avant, en fait, je pense que naturellement avec l'IA, il va basculer d'un rôle de security analyst à security orchestrator. Vraiment, il va être en pilotage de comment mon job qu'avant je faisais moi-même, comment mon job devient fait par plus d'automates. Et des fois, je viens définir vraiment les règles. Pour que soit ça s'automatise complètement, soit des fois moi en tant qu'humain je me mette en coupure parce que j'estime que là dans telle chose il faut vraiment que ça passe par moi. Donc ça peut être, tu vois, des paramètres IA, ça peut être des instructions spécifiques telles qu'on les parlait tout à l'heure. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait l'humain va bouger pour être moins dans l'action opérationnelle de chaque tâche et plus en pilotage d'une boucle IAisée, parce que s'il n'y a pas photo, on va vers ça, une boucle IAisée qui va permettre d'aller plus vite, mais par contre de garder l'humain. C'est-à-dire, il y a souvent un paramètre, on disait human in the loop. En fait, de plus en plus, je pense, le sens des choses, c'est pas human in the loop, ça va être human on the loop. Faut que la boucle, elle aille de plus en plus vite. Donc, pour qu'elle aille de plus en plus vite, il va falloir que ce soit de plus en plus automatisé, de plus en plus algorithmisé. Et l'humain, il doit être au-dessus. Il doit pas être dedans parce que s'il est dedans, il la bloque, il va pas à la vitesse de la machine. Mais en étant en mode pilotage et capacité à définir les règles, on y gagnera tous. C'est vrai qu'on sent ce mouvement-là, le human in the loop, qui était utilisé encore il y a quelques temps, tend maintenant à être bougé vers le human on the loop. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, pilotage. Et dans tous les cas, quand on voit les attaques qu'on a aujourd'hui, tu vois, je pense là, sur ces derniers mois, on a eu quoi? On a eu on a le Pentagone qui a pris une confirmation qu'on a eu des établissements de chemin d'attaque faits avec Anthropic. On a eu Anthropic, là encore, qui a été utilisé par des fuites d'informations au Mexique, on va dire, sur un modèle d'attaque complètement séquencé par Claude. Il y a deux mois, on avait la perspective, on va dire, d'avoir des acteurs étatiques chinois qui, a priori, avaient là encore utilisé complètement les capacités Claude, on va dire, pour définir le plan d'attaque, la génération de vulnérabilité et les plans d'exploitation. Donc, même si, on va dire, on peut garder un certain nombre de réserves, les signaux se multiplient et ça devient une réalité de plus en plus apparente. Il y a eu, je sais plus, un outil d'attaque, Shannon, là, qui est sorti, permettant maintenant d'IAiser, enfin, en mode agentique, encore une fois, de transformer des opérations de pentest en complètement automatiques. Donc, tout va devenir demain histoire de secondes dans les attaques. Si tout demain est histoire de secondes dans les attaques, on ne peut pas avoir des temps à l'échelle de la journée en face pour la réponse. Il faut que l'humain, on va dire, ait défini ce qui est acceptable et ne l'est pas, et par défaut, la défense est aussi automatisée le plus possible. Donc, on n'a pas le choix. Je pense qu'on n'a vraiment pas le choix. Et sur un jeu de chat et de la souris entre l'attaque et de la défense, qui a toujours été le cas de la cybersécurité, il faut que la défense accepte aussi de changer de rôle, plus être à vouloir tout faire. Il faut que ça veut dire que les DSI, que les RSSI acceptent d'avoir une forme d'automatisation plus importante dans les systèmes. Et par contre, il faut piloter ça. Donc, c'est là où, à mon avis, il y a la transition des équipes.
Effectivement, puis la première phase, que comme tu le mentionnes bien, c'est tout l'aspect du triage qui était très aliénant là, pour les humains qui font ça, parce que ça devient complètement fou. Puis le volume est très important, ce qui est l'autre aspect que tu mentionnes. Autant le volume était déjà important avant, puis on essayait de faire un peu de sens avec le machine learning. Maintenant, avec l'intelligence artificielle qui est dans l'attaque, qu'on le voit plus, c'est rendu, c'est plus de la théorie, là, c'est vrai. On n'a plus le choix d'aller ça, parce que même l'IA en attaque va augmenter la quantité de signaux qu'on va devoir traiter. Si on n'est pas capable de le traiter, si un analyste humain de passer à travers, il aimera vraiment pas sa vie. Puis c'est très intéressant, cette bascule-là et cette automatisation-là. De mon expérience, les SOC résistent énormément à l'automatisation jusqu'à un certain point, les DSI. Il y a une peur très, très profonde chez ces personnes-là de briser quelque chose en automatisant des moyens défensifs qui, à mon avis, je pense pas qu'on... De toute façon, on n'aura plus un choix, comme tu le mentionnes. Là, le vent de face qu'on va affronter n'aura juste plus de sens.
Ouais, je pense que le SOC complètement automatique, complètement automatisé, complètement autonome, on n'y est pas encore. Par contre, effectivement, le semi-autonomous SOC avec de l'humain qui pilote, ça, il faut que l'industrie y aille le plus vite possible. Je dis ça, c'est parce qu'en fait, on cherche tous un rôle collectivement à protéger la valeur de nos entreprises, la valeur de nos PIB. Et donc, du coup, c'est en faisant ça qu'on sera les meilleurs face aux attaques qui, elles, pareil, vont utiliser ces mêmes technologies-là pour essayer, elles, de jouer leurs opportunités, c'est-à-dire de gagner le plus vite, soit de la donnée, soit de l'argent.
Oui, puis je vais poser une question peut-être plus vaste pour terminer. A priori, les humains apprennent en se pratiquant. Donc, les rôles de premier niveau dans le SOC permettaient aux gens à gagner en compétences. Si on fait disparaître ces rôles-là où on devient que des pilotes, comment tu vois cet apprentissage-là chez ces pilotes-là? Parce qu'on a une génération de gens déjà d'expérience, et comment les générations futures viendront justement regagner cette expérience-là nécessaire pour piloter correctement les SOC du futur?
Ouais, alors ça, par contre, c'est une vraie, très, très bonne question et qui me fait peur parce qu'en fait, j'ai pas la réponse à ça. Ouais, je suis pas à l'aise avec ça parce qu'effectivement, on sent très bien que l'IA va manger les métiers ou les rôles les plus consommateurs de temps et les moins à valeur ajoutée, c'est certain. Sauf qu'en fait, c'était quand même une zone d'apprentissage hyper intéressante pour un junior avant de devenir senior. Et donc du coup, si tu ne peux plus passer par la case junior et qu'on a besoin des seniors, la question c'est en l'espace de 5 ans, 10 ans, comment on fait? Et c'est là où j'ai pas la réponse. Donc effectivement, est-ce qu'on se dit qu'on continue de miser sur l'IA, mais cette fois-ci pour le moment accélérer les mécanismes de training et faire en sorte que parce que tu seras mis en confrontation dans des modes simulés en un minimum de temps à des très très bons use cases et que finalement tu pourras en l'espace de 3 mois finalement court-circuiter ce qui t'aurait fallu historiquement des années à acquérir en compétences, c'est une piste. Est-ce que l'IA montera en puissance demain encore? En se disant que les opérations de pilotage, elle sera peut-être elle-même meilleure à les porter elle-même que nos seniors. C'est une autre piste, encore plus inquiétante à ce moment-là à l'échelle de notre industrie. J'ai pas la réponse de la suite. Elle me fait un peu peur, mais ouais, je sais pas dire comment ça va évoluer à ce niveau-là.
Ouais, je pense pas que on est tous à peu près dans la même situation que toi de cette inquiétude-là qui s'en vient, parce qu'on a tous appris en se faisant les dents sur justement des emplois de premier niveau, d'être confronté au réel et de ce réel-là, on apprend. J'ose espérer, puis un peu comme tu le mentionnes, que l'IA va nous donner cette capacité d'entraînement de l'humain en accéléré pour aller beaucoup plus rapidement, puis c'est effectivement ce qui serait, à mon avis aussi, le plus souhaitable pour ce qui s'en vient devant nous. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, que t'aimerais aborder?
Sur les sujets de l'IA, non, peut-être plus. On entend aux alentours du monde de la cyber, ça peut être intéressant pour ton auditoire, on a entendu beaucoup parler d'agentic, je pense, durant les 6 derniers mois. Et de plus en plus, on parle maintenant de multi-agent system. C'est peut-être juste intéressant de se dire que tout ça est peu ou prou à peu près la même chose. Il s'agit dans tous les cas de faire la translation de certains pans opérationnels d'activité qui sont potentiellement des étapes de workflow d'un produit ou autre, comme étant un agent, et t'as un agent, 2 agents, 3 agents, donc chacun va s'occuper d'un domaine particulier. Et tant qu'on appelle ça de l'agentic, tant qu'on appelle ça du multi-agent system, c'est de la collaboration entre ces différents agents-là pour faire le plus efficacement possible le parcours de toute la chaîne. C'est ça qui fait qu'en fait, à la fin, dans tout produit, encore une fois, et pas que cyber, on a une implémentation qui est chouette et efficace.
Oui, merci beaucoup pour ce partage-là, ce regard-là sur où on s'en va. D'où on arrive et où on s'en va avec le SOC, parce que je suis pas mal convaincu qu'on va en reparler encore, parce que l'évolution s'en vient. Tu mentionnais justement qu'on parle de site agentique. Dans 6 mois, je sais aucune idée qu'est-ce qu'on va parler et comment ce que ça va être et comment l'environnement autour de nous va avoir évolué.
Clairement.
Merci.
Merci, Nicolas. Salut.